VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui, Eric Manelakiza avec vous au sommaire de cette édition du jeudi 5 octobre 2023. Le chef d'état-major de la gendarmerie du Burkina Faso est limogé une semaine après l'interpellation de 4 officiers soupçonnés d'être impliqués dans un complot contre la sûreté de l'État. Toujours au Burkina, l'ex-président Thomas Sankara est élevé au rang de héros de la nation. Au Mali, les rebelles à dominante Touareg revendiquent la prise d'un nouveau camp de l'armée au Liberia. L'ONU est préoccupée par les violences électorales. Et ici aux États-Unis, Donald Trump lance de nouvelles invectives contre la justice, puis quitte son procès civil. N'en manque pas notre page sport, ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le gouvernement de la transition au Burkina Faso a décidé mercredi d'élever l'ancien président et père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, au rang de héros de la nation. La consécration du statut de héros de la nation à Thomas Sankara vise à pérenniser les valeurs cardinales qui fondent la République, a justifié le gouvernement. Une cérémonie nationale et internationale d'hommage à Thomas Sankara sera organisée le 15 octobre 2023 pour honorer sa mémoire et celle de ses 12 compagnons. Selon le gouvernement, toujours arrivé au pouvoir par un putsch en août 1983, Thomas Sankara, icône panafricaine, a été tué le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État fomenté par son numéro 2, Blaise Compaoré, qui est resté au pouvoir jusqu'à une insurrection populaire qui a entraîné sa chute en 2014. Au Burkina Faso toujours, le capitaine Ibrahim Traoré a effectué un changement à la tête de la gendarmerie nationale en remplaçant le lieutenant-colonel Evrard Somda dans ses fonctions de chef d'état-major par le lieutenant-colonel Kouagri Natama. De plus, des changements ont été opérés au niveau des officiers responsables de la logistique au sein de la gendarmerie et de l'armée de terre. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré.
Le capitaine Ibrahim Traoré a décrété hier mercredi de remplacer le lieutenant-colonel Evrard Somda. Le lieutenant-colonel Kouagri Natama, un officier supérieur de gendarmerie et expert des questions sécuritaires, vient occuper ce poste. Aussi, un nouveau directeur de la logistique a été nommé. À l'armée de terre, un nouveau chef de la division logistique et un directeur du matériel ont été nommés. Également, un nouveau patron de la division logistique de l'état-major général des armées a été nommé. Ces changements interviennent après la confirmation par le gouvernement il y a quelques jours d'une tentative de coup d'état. Le parquet militaire a annoncé avoir interpellé 4 officiers, dont des officiers de la gendarmerie, et 2 soldats sont en fuite. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Et dans le nord du Mali, la rébellion à prédominance Touareg a revendiqué hier la prise d'un nouveau camp des forces armées. Les détails avec Nani Tetalani.
Dans un bref communiqué sur les réseaux sociaux, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad a indiqué que le camp de l'armée à Taoussa, dans l'ouest de Bourem, dans la région de Gao, est sous contrôle des rebelles. Un enseignant sur place a rapporté des échanges de coups de feu dans l'après-midi dans le secteur du camp. D'autres sources ont rapporté des tirs dans le secteur de Tarkint sur le trajet de la colonne. Un convoi de l'armée composé de dizaines de véhicules et de blindés est parti lundi de Gao en direction de la région de Kidal, fief de la rébellion Touareg. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a revendiqué sur les réseaux sociaux une attaque à l'engin explosif contre le cortège. Il a revendiqué une attaque contre un convoi dans le centre. L'armée a semblé reconnaître ces opérations dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Elle a notamment rapporté une attaque aux engins explosifs improvisés perpétrés mardi entre Gao et Anéfis, c'est-à-dire sur le chemin a priori emprunté par le convoi, sans plus de détails.
Les Nations Unies ont exprimé mercredi leur inquiétude au sujet des violences survenues au Liberia avant les élections du 10 octobre. New York a également exhorté toutes les parties à éviter toute incitation à la haine ou à la violence.
Nous sommes préoccupés par les cas signalés de violences liées aux élections, l'utilisation d'un langage pouvant verser dans un discours de haine et les attaques contre des journalistes au Libéria, a déclaré hier Sef Mangango, porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, dans un communiqué. Des affrontements meurtriers se sont produits lors de la campagne pour les élections présidentielles et parlementaires entre des soutiens des deux principaux partis politiques de l'opposition et la coalition au pouvoir. Sef Mangango a fait état d'au moins 2 morts et 20 blessés dans le comté de Lofa le 29 septembre lors d'affrontements entre les partisans de l'ex-vice-président Joseph Boakai et ceux du président sortant George Weah, ancienne star du football. Le Libéria a connu des guerres civiles de 1989 à 2003 qui ont fait plus de 250 000 morts.
Les détails de John Lindon. En RDC, l'opposant Moïse Katumbi va se présenter à l'élection présidentielle prévue en décembre, a annoncé son parti Ensemble pour la République mercredi. Homme d'affaires millionnaire et ancien gouverneur de la région du Katanga, Moïse Katumbi a été condamné pour fraude et se trouvait en exil à l'étranger lors de la dernière présidentielle de 2018. Il est rentré en 2019 après un pardon présidentiel. Outre le président sortant Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi fera face au candidat Martin Fayulu, qui est arrivé deuxième lors du précédent scrutin, et le gynécologue et prix Nobel de la paix Denis Mukwege. La commission d'enquête de l'ONU sur les atrocités commises en Éthiopie ne verra pas son mandat renouvelé, faute de soutien de la communauté internationale, a annoncé mercredi un porte-parole de l'ONU. Ces enquêteurs avaient pourtant averti mercredi qu'il existe un énorme risque et que les atrocités contre les droits humains continuent en Éthiopie depuis la paix conclue entre les rebelles tigréens et le gouvernement fédéral fin 2022. L'ONG Human Rights Watch a dénoncé dans un communiqué la fin de l'enquête. Il s'agit d'un coup dévastateur, a réagi la directrice de Human Rights Watch, Tirana Hassan.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, Donald Trump a quitté mercredi son procès civil pour fraude sur la valeur de ses actifs immobiliers. Son départ a suscité des moqueries de la part de la procureure générale de l'État de New York, Letitia James, qui a assuré qu'elle ne se laisserait pas intimider par l'ancien président des États-Unis. Le point avec Jean-Roger Bion.
L'ancien président américain favori des sondages pour les futures primaires républicaines était présent à toutes les audiences depuis lundi au palais de justice de Manhattan, ne manquant pas une occasion de répéter devant les journalistes que Letitia James est corrompue, raciste et participe à un complot fomenté par le camp Biden pour l'empêcher de revenir à la Maison-Blanche. Mais après avoir assisté au débat mercredi matin et après avoir déclaré aux journalistes qu'il était coincé à ce procès et ne pouvait pas faire campagne, il n'est pas réapparu aux audiences de l'après-midi. Letitia James a dénoncé ses commentaires offensants. « Monsieur Trump n'est plus là. Le spectacle de Donald Trump est terminé », a lancé Madame James, convaincue que la justice l'emportera à l'issue de ce procès qu'elle a déclenché en portant plainte. Les débats qui ont lieu devant un juge de la Cour suprême de l'État de New York peuvent se dérouler sans Donald Trump. Celui-ci n'encourt aucune peine pénale dans ce dossier, mais il est appelé à témoigner durant le procès qui va durer des semaines, tout comme ses deux enfants, Eric Trump et Donald Trump Jr., visés eux aussi par la plainte de Letitia James, tout comme la Trump Organization.
La crise politique à Washington pourrait menacer l'aide américaine à l'Ukraine, a pour la première fois laissé entendre Joe Biden en promettant mercredi un discours majeur sur l'extrême importance du soutien militaire et financier à Kiev. Le Congrès américain, composé du Sénat à majorité démocrate et de la Chambre des représentants, contrôlé par les républicains, dispose d'environ 1 mois et demi pour adopter un budget annuel qui doit comporter pour la Maison-Blanche une nouvelle enveloppe pour financer le soutien à Kiev. La présidence évalue à 24 milliards de dollars la rallonge nécessaire pour continuer de soutenir l'effort de guerre ukrainien. Plus de 75 000 employés de Kaiser Permanente, l'un des plus gros systèmes hospitaliers des États-Unis, ont commencé mercredi une grève de 3 jours pour réclamer de meilleures conditions de travail. Il doit s'agir du mouvement le plus important à secouer les services de santé dans le pays. Si les demandes des travailleurs ne sont pas satisfaites, une nouvelle grève pourrait être organisée en novembre. Les travaillistes britanniques se réunissent à partir de dimanche en congrès à Liverpool. Tout l'enjeu sera de ne pas contrecarrer leur chance de faire entrer leur chef à Downing Street, le bureau du Premier ministre. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée ce matin par John Lyndon.
Le coût ou la disponibilité des financements en devises étrangères est l'une des plus grandes préoccupations des banques africaines en 2023. C'est ce que révèle une enquête sur le secteur bancaire africain publiée en fin septembre par la Banque européenne d'investissement. L'agence Ecofin, qui a parcouru cette enquête, nous apprend ainsi que seuls 4% des banques africaines ont fait des émissions en devises fortes au cours de l'année 2022. Le Fonds monétaire international a annoncé mercredi avoir validé la première étape du programme d'aide à destination de la Côte d'Ivoire, ce qui entraînera le déboursement des 500 millions de dollars après validation par son conseil d'administration. Le programme, qui avait été avalisé par le fonds fin mai, s'étale sur 40 mois et représente un montant total de 3,5 milliards de dollars, donc 2,6 milliards de DTS. La Banque mondiale a publié mercredi ses prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne, disant craindre une décennie perdue pour le continent, confronté à une instabilité grandissante. Pour l'année en cours, la croissance devrait atteindre 2,5%, a estimé l'institution, alors qu'elle était encore à 3,6% l'année dernière, en raison notamment du ralentissement des principales économies de la région.
Nous passons directement à votre page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
La co-organisation du Mondial 2030 revient au Maroc, au Portugal et l'Espagne.
Oui, les confédérations européennes, africaines et sud-américaines de football se sont accordées autour d'une candidature unique pour le Mondial 2030, présenté par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, avec 3 matchs en Amérique du Sud. C'est l'annonce faite par la FIFA. Le centenaire de la Coupe du monde masculine, dont la première édition a eu lieu en Uruguay en 1930, va donc unir 3 continents et 6 pays. Les détails avec Amin Birouk, notre correspondant sportif à Casablanca, au Maroc.
C'est un grand moment pour l'Afrique, un grand moment pour la symbiose des cultures et des civilisations. Et en prévision des festivités du centenaire de la Coupe du monde qui a vu le jour en Uruguay en 1930, l'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay auront le privilège de démarrer la Coupe du Monde sur le continent américain. Cela fera une candidature aux allures symboliques puisque pas moins de 3 continents pourront vivre cette fête du centenaire. Reste maintenant à déterminer comment seront dispatchées les rencontres entre les principaux pays organisateurs et de quelle façon l'Afrique pourra se distinguer. On rappelle que le Royaume du Maroc s'est présenté à 6 reprises pour l'organisation du plus grand événement du football mondial et que ses efforts, sa résilience, sa persévérance viennent d'être récompensés. Une énorme joie emplit tous les foyers marocains de Tanger El Guira. Évidemment, ce sentiment sera transporté lors des prochaines échéances et notamment lors de l'organisation de la CAN 2025 qui aura des allures de répétition pour le Mondial 2030. Le Maroc et l'Afrique sont honorés, a eu de tenir le challenge de l'organisation de la Coupe du Monde et de réussir la plus belle compétition qui soit en accord avec leurs partenaires portugais et espagnols. Depuis Casablanca, Amin Birouk pour la VO Afrique.
Suite F1, hier, des matchs de la 2e journée en Ligue des Champions en Europe.
Entre autres résultats, dépassé, le Paris Saint-Germain a subi la loi de Newcastle et d'un St. James Park en éruption, 4-1. Dortmund et l'AC Milan ne se sont pas ménagés, mais trop brouillons. Ils ne sont pas parvenus à se départager, 0-0. Barcelone a surmonté un obstacle important en s'offrant une victoire laborieuse 0-1 sur la pelouse de Porto. Après 2 défaites consécutives en Angleterre, Manchester City a dû s'employer pour battre le RB Leipzig 3-1 et sortir un peu la tête de l'eau.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui, de retour avec vous, Eric Manilakidza. Place au dossier du jour. Un important convoi de l'armée malienne a quitté Gao lundi en direction de la région stratégique de Kidal, bastion de la rébellion séparatiste Touareg qui a récemment repris les armes contre l'État central. L'offensive intervient au moment où l'armée malienne fait face à des menaces croissantes dans le nord, entre Gao et Tombouctou, en raison de la reprise des hostilités des groupes armés à dominante Touareg et d'une recrudescence des attaques djihadistes. Mohamedou Oumfa a joint Sékou Tangara, rédacteur en chef de la télévision Africable.
D'abord, il faut apporter une petite précision. Il n'y a pas eu de décision de Bamako de mener une offensive contre Kidal. Ce qui s'est passé, c'est qu'en juin dernier, le MINUSMA, le Conseil de sécurité des Nations Unies, a décidé du retrait de la MINUSMA du Mali. Et dès lors que les casques bleus vont se retirer, il est prévu que toutes les emprises qu'ils occupaient soit rétrocédé à l'armée malienne. On a vu la rétrocession de Ber et dans cette semaine, il y aura les rétrocessions de Kidal, de Aguelop et de Tessalit. Et c'est dans cette logique-là que l'armée est en train de se déplacer vers ces zones-là.
Merci beaucoup pour cette précision très importante. Alors, comment est-ce que les Maliens réagissent à ces mouvements de troupes? Que dit-on dans l'opinion et dans la presse?
Bon, dans l'opinion, les commentaires, c'est beaucoup d'espoir. Il n'est pas rare d'entendre aujourd'hui, de la part des personnes âgées, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe à Kidal et autour de Kidal, on peut tranquillement mourir, c'est le commentaire de certains Maliens, parce que ils ont pensé que le Mali avait été humilié de Kidal, l'armée malienne avait été chassée de Kidal en 2014, et voir aujourd'hui l'armée revenir gaillardement, pour beaucoup de Maliens, c'est un motif de satisfaction et c'est quasiment le principal sujet de conversation dans les administrations, dans les bureaux et également les principales émissions au niveau des radios. C'est cette actualité qui est largement commentée aujourd'hui au Mali.
Oui, alors cette actualité est commentée, mais un mot peut-être sur les conditions de travail et d'accès dans cette zone. Comment vous faites pour avoir des nouvelles là-bas?
Bon, les nouvelles, elles sont quasiment, c'est dans un sens, c'est beaucoup plus la voie officielle, c'est l'armée qui communique à travers la direction des relations publiques des armées, la DIRPA, qui tient des conférences de presse régulières. Les autres bribes d'information, c'est sur les réseaux sociaux avec des personnes qui se trouvent dans ces localités-là ou qui ont des connaissances dans ces localités-là. Mais puisque ça appelle à la prudence, c'est souvent des informations qu'il faut prendre avec tact. Et les journalistes, dans cette situation de guerre, la plupart souvent préfèrent s'en tenir à la version officielle, à la version donnée par l'armée, même si souvent aussi on voit les ex-combattants, les ex-rebelles, c'est-à-dire les combattants de la CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, qui font également des communiqués sur les réseaux sociaux et souvent sur certaines presses occidentales.
Sékou Tangara, rédacteur en chef de la télévision Africable au Mali. Restons toujours au Mali, où l'augmentation significative des prix des produits essentiels à Gao dans le nord du pays est le résultat de l'insécurité, provoquant ainsi une hausse considérable des prix de certaines denrées qui coûtent maintenant le double de ce qu'elles valaient. Les habitants de la région sont confrontés à des difficultés croissantes pour satisfaire leurs besoins fondamentaux. À Gao, la correspondance est signée Boubacar Touré.
Les prix des produits de première nécessité connaissent une augmentation vertigineuse sur le marché, à en croire les personnes interrogées dans la ville de Gao.
Aujourd'hui, vraiment, nous assistons à une montée, je ne sais pas comment qualifier de cette montée-là des prix. Le pot fait 1000 francs, ça c'est le riz. Si on prend le cas du sucre, 1 kilo fait 800 francs, demi-kilo 400. Donc au niveau des condiments aussi, c'est la même chose. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a des familles qui n'ont pas les trois repas. Parce que 2500 ne peut pas faire l'affaire d'un seul repas. Nous sommes dans une situation très difficile. Ça, c'est un cri de cœur en tant que femme que j'adresse quand même à l'État malien.
Moi, je suis un ouvrier, on ne sait même pas comment on fait maintenant. Vraiment, tout est cher. Il y a beaucoup de gens qui ont même fait des commandes, ils ne viennent pas. Donc, nous sommes des ouvriers. Si la ville est chère, surtout nous, les ouvriers, qui voient les conséquences. Les laits, avant, c'était 2000 francs. Maintenant, c'est jusqu'à 2500. Maintenant, les dates, avant, c'était 600 francs. Maintenant, les kilos, c'est 1000 francs. On ne sait même pas ce qu'on fait maintenant, vraiment.
Cette flambée des prix s'explique par l'insécurité grandissante dans la zone et les sanctions infligées au Niger par la CEDEAO. Najim Ben Zafat, commerçant grossiste à Gao.
Quand c'est cher, tu trouves, ça c'est une bonne chose, mais maintenant il n'y en a même pas. Ça commence à disparaître, le produit de première nécessité. On ne peut plus amener des marchandises à partir de Sévaré par voie routière ni fluviale. Et par Niamey aussi, ça ne vient pas. Tout est bloqué, la CEDEAO a tout bloqué au niveau des frontières, donc rien ne nous vient. En tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que les gros importateurs ne peuvent pas stocker. Quand ça arrive, il faut que tu vas. Il y a quelque chose qu'il faut que les gens comprennent. On a des partenaires avec lesquels on a des engagements. On a aussi des engagements avec nos banques. Donc nous, on ne peut pas traîner comme les détaillants. On ne peut pas quitter des Niamey pour venir à Gao. Si tu quittes l'Abzanga pour Ansongo, tu as des problèmes. Si tu quittes Ansongo pour Gao, tu as des problèmes. Et Gao, c'est vrai, là, il n'y a même pas la solution. C'est même pas ce qu'il faut dire, gars.
D'autres raisons expliquent également cette augmentation des prix, dont l'absence d'un contrôle des prix par l'État du Mali. Al-Buhari Maïga, chef de famille à Aljana Bancha.
On est dans un trou, il y a problème. Tu sais, en matière de commerce, quand un commerçant n'est pas suivi par un État, il ne peut pas avoir un bon prix. Dès lors que les choses sont augmentées de 10 francs, 15 francs, 20 francs, il ne fait que ralentir la chose pour s'en bénéficier de plus. De la même manière que les choses viennent, les 90% sortent aussi encore.
Face à cette flambée des prix et des magasins qui se vident de plus en plus, la Chambre de commerce fait appel aux autorités. Boubacar Diko, premier vice-président de la Chambre de commerce de Gao.
Au jour d'aujourd'hui, nous avons près de 60 pinasses stationnées à Tombouctou. Le plus bas tonnage fait 25 tonnes, sinon c'est de 25 jusqu'à 80 tonnes. Malheureusement, par manque de sécurité, par manque de escorte, ces opérateurs n'ont pas voulu prendre le risque. On a saisi il y a deux ou trois jours l'administration malienne à travers le gouverneur de Tombouctou pour lui dire de nous aider à trouver les voies et moyens, parce que ça ne va pas Gao. Nous-mêmes, responsables des opérateurs chambres de commerce, on se rend compte de ce qu'il y a. Il n'y a pas un import-export de la place aujourd'hui qui a un stock dans son magasin. Donc nous avons demandé seulement à l'administration, accompagnez-nous en sécurisant ces camions pour alléger un peu la souffrance de ces populations.
Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Le Burkina Faso est confronté au défi du changement climatique et de la désertification. Bien que la région de Bobo-Dioulasso soit l'une des plus boisées du pays, ses forêts sont menacées par une exploitation abusive des arbres. De plus, en raison de l'insécurité, certaines forêts sont en train d'être déboisées par crainte qu'elles ne servent de refuge aux groupes armés. Alidou Ouedraogo pour les détails.
La région la plus verte du Burkina, Bobo-Dioulasso, se bat pour préserver l'environnement. L'action de l'homme est la principale cause de sa détérioration. Parmi ces causes, l'activité minière et la crise sécuritaire. Le docteur Paulette Taïta est chercheuse au département environnement et forêt de l'Institut de recherche environnement forêt.
Le désert, on le sent venir petit à petit. Il y a beaucoup de causes que l'on peut répertorier. Par exemple, pour faire de l'agriculture, il faut défricher des champs, donc il faut enlever des arbres. Il y a aussi, lorsqu'on fait les prélèvements pour les constructions, lorsqu'il y a la confection de routes, de plus en plus il y a l'exploitation minière, qui, les forêts sont de plus en plus envahies donc, par certaines forces dont on ne maîtrise pas toujours la provenance. un important facteur qui participe au dévoisement ou à la déforestation.
Et le docteur Taïta rejette toute idée de couper les arbres sous prétexte dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
C'est vrai qu'il faut se protéger, mais il faut vraiment que nous protégions les arbres, il faut que nous protégions nos forêts.
Ancien député à l'Assemblée du Burkina, Moussa Zerbo était membre de la commission environnement. Il nous fait le point de la déforestation au Burkina.
Donc face à l'insécurité, quand la population quitte les lieux et que l'insécurité amène les gens à quitter les lieux, il va de soi que les agents aussi ne puissent pas rester à leur poste. Et de la sorte, il va de soi que leur absence laisse libre cours maintenant à ceux qui sont dans les parages de pouvoir piller impunément et de pouvoir couper le bois comme ils l'entendent. C'est un vrai danger et c'est une menace certaine pour en tout cas notre environnement.
Pour Moussa Zerbo, il n'est pas question de détruire nos forêts à cause de l'insécurité qui vit le pays.
L'état de désertification est très avancé chez nous, c'est très très avancé, répondant directement au sacrifice qu'on veut faire de nos forêts pour la lutte contre le terrorisme. Je pense très sincèrement, nous allons nous retrouver dans une situation un peu compliquée.
Devant ces constats alarmants, certaines des populations semblent ne pas comprendre l'enjeu, comme Daouda Sanfo.
Bon, moi je pense que c'est normal, puisque quand les terroristes vont se cacher dans la forêt, tant qu'on ne coupe pas les arbres, on ne peut pas les en avoir. Même en les bombardant, si les arbres là sont tombés, il n'y a pas de problème. Après, on peut faire un reboisement des arbres. Sinon, en les laissant comme ça, là, ils vont nous envahir chaque fois, ils nous font que tuer. Finalement, nous tous, on va mourir et la forêt sera là. À quoi ça sert?
Selon le docteur Taïta, les effets du changement climatique ont commencé.
Donc, il y a l'érosion des terres que l'on constate. Il y a l'assèchement aussi de ces terres. Cela impacte donc sur le cycle de vie des ressources naturelles.
Le docteur Taïta a affirmé que plusieurs espèces animales sont en train de disparaître au Burkina. Halidou Ouedraogo, Bobo Dioulasso pour VOA Afrique.
Le Conseil exécutif de l'Union africaine s'est réuni hier à Kigali au Rwanda pour discuter des priorités de l'agenda 2063. Parallèlement, les pays africains travaillent activement à atteindre les objectifs de développement durable fixés à l'horizon 2030. À l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies, Alexandrine Rolignon a eu l'opportunité de rencontrer Antonio Pedro, secrétaire exécutif par intérim de la Commission africaine économique des Nations unies pour l'Afrique.
Je suis optimiste, nous sommes optimistes en Afrique. La sommet du climat de Nairobi a sorti une déclaration de Nairobi qui est très forte, qui est très claire, qui positionne l'Afrique comme le continent solution pour grands problèmes des changements climatiques en Afrique, au monde en général. Donc c'est ça le message, c'est que l'Afrique reconnaître qu'il y a des ressources renouvelables et non renouvelables qui peuvent aider tout le monde, tout le continent à lutter contre le changement climatique. Donc, mais en même temps, nous sommes conscients que la route vers la mise en œuvre des ODD est une route qui est difficile. Il y a des problèmes structurels, y compris le problème d'accès au financement qui est disponible, qui est moins cher, etc.
On parle de l'horizon 2030, mais l'Afrique a elle aussi un autre délai, l'horizon 2063, une date que s'est fixée l'Afrique pour transformer le continent en une puissance. Où en sommes-nous pour ce délai, pour cet objectif?
Oui, bon, pour nous, les Nations Unies et pour l'Union africaine, on parle d'un cadre, qui est le même cadre, le cadre de développement, et deux agendas, l'agenda 2030 et l'agenda 2063. Les deux agendas se complémentent. 70% des aspects des deux agendas, ce sont les mêmes. Donc ça veut dire que la mise en œuvre des ODD est une contribution vers la mise en œuvre de l'agenda 2063. Et pour l'Afrique, en parlant des opportunités et pour la mise en œuvre des deux agendas, en parlant de ce que l'Afrique représente. Nous avons les ressources naturelles, comme par exemple le soleil, les forêts, occupés jouent un rôle très important pour la séquestration de carbone, par exemple, et pour la accélération de la mise en œuvre de l'énergie renouvelable. Là, l'Afrique a presque 60% de tout le potentiel d'énergie solaire du monde. Et nous avons les forêts dans le bassin du Congo et dans d'autres endroits en Afrique qui peuvent aider à la séquestration du carbone. Et donc, c'est tout ça qui nous donne l'espoir que lorsque nous sommes ensemble, que nous travaillons étroitement, y compris entre les Nations Unies et l'Union africaine, pour s'en profiter de toutes ces ressources, l'Afrique pourrait aboutir à que l'agenda 2063 et l'agenda 2030 soient une réalité en Afrique.
Antonio Pedro, secrétaire exécutif par intérim de la Commission africaine économique des Nations Unies pour l'Afrique. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Maniakis a été avec vous. Lionel, vous amenez la Gaïma sur la mise en onde. Et